France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
En France, en Hongrie, aux États-Unis, les extrêmes droites sont en train de mettre à mal l'état de droit comme fondement de la démocratie. Marine Le Pen conteste la décision des juges qui l'ont condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et dénonce, je cite, une confiscation démocratique suite aux élections législatives de juillet 2024. Ailleurs, aux États-Unis, par exemple, c'est l'accaparement du pouvoir entre les seules mains de Donald Trump qui fait craindre une dérive autoritaire et antidémocratique. Le terme « démocratie » utilisé de part et d'autre semble ainsi se brouiller, se charger de sens nouveau. Il pourrait connaître une nouvelle étape de son histoire qui ne fut pas linéaire, de l'Antiquité à la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. Il fut admiré, décrié, finalement adopté comme valeur suprême à partir du 19e siècle. Alors, quelle vision de la démocratie avaient les fondateurs de nos régimes politiques? Les révolutionnaires de 1789 étaient-ils vraiment des démocrates? Un historien ce soir pour nous éclairer, Francis Dupuy. Bonsoir.
Bonsoir, merci de me recevoir.
C'est un plaisir, vous êtes professeur de sciences politiques et non d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Le titre de votre ouvrage, Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France, a apparu pour la première fois en 2013. Il réapparaît à nouveau en France. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Et comme on parlait, Francis Dupuy Déry, dans cette première partie de Question du soir, des droites, de l'Union des droites, je ne résiste pas à citer, pour commencer cette discussion, à citer Bruno Retailleau qui déclarait en septembre 2024 dans le journal du dimanche, je le cite, l'état de droit c'est un ensemble de règles, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs, mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain, fin de citation. Comment analysez-vous vous-même cette citation ?
Mais en fait, Retailleau et d'autres acteurs, actrices de la droite dure, extrême droite, on peut penser à Marine Le Pen aussi, mais on peut penser à, dans d'autres circonstances comme aux États-Unis, par exemple, Trump attaque, en fait, quand ça fait leur affaire, disons, le système juridique, les juges, en disant que les juges sont trop politisés. Mais curieusement, c'est quand ça nuit à leurs amis ou à leurs alliances, parce qu'en fait, généralement, ils sont les premiers, évidemment, à dire qu'il faut des lois plus strictes, plus fortes, plus de punitions, plus de pénalités. On a assisté même à quelque chose d'assez surprenant en France dans les dernières semaines, c'est un mouvement de droite anticarcérale. On n'avait pas pensé que ça pouvait exister, mais en faveur de Nicolas Sarkozy, par exemple, qui était pourtant reconnu comme un des présidents qui avait vraiment serré la vis, disons, au niveau des peines et au niveau des incarcérations.
Bon, mais soutenir ses amis politiques, ses alliés politiques, est-ce que ce n'est pas un réflexe qui appartient à tous les bords politiques par construction ?
Ah oui, tout à fait. Mais en fait, si on revient au contexte français, on peut se rappeler de Mélenchon aussi, qui avait protesté quand il y avait eu des perquisitions, si je me rappelle bien, là, je veux pas dire de bêtises, là.
Dans son bureau de l'Assemblée nationale.
Exactement. Mais bref, le système dont on parle, c'est le système libéral, hein, c'est le régime libéral, électoral, parlementaire. Il y a différentes formes, mais en fait, c'est toujours un peu les mêmes principes. Et il y a ce principe fondamental dans ce système. Qui fonctionne quinquain, mais quand même, qui est l'équilibre et la séparation des pouvoirs. Et si on fait un peu de philosophie politique, on peut objecter à Retailleau qu'en fait, les trois branches représentent ou sont une forme d'expression de la souveraineté populaire, en réalité.
Dans votre ouvrage, vous critiquez vertement la démocratie représentative et plaidez pour des formes complexes de démocratie directe. Comment est-ce que vous abordez le fait que cette critique, là aussi, de la démocratie représentative est largement soutenue, portée même aujourd'hui par une partie de la droite et de l'extrême droite.
Oui, ça c'est une question qui m'embête un peu parce que c'est pas nécessairement mes amis, mais effectivement des fois par rapport à ce qu'on appelle l'extrême gauche et l'extrême droite, l'extrême gauche libertaire surtout et l'extrême droite, il peut y avoir des tirs croisés contre les institutions. Parlementaires, contre les institutions même républicaines, contre les institutions électorales, et évidemment contre l'élite politique actuelle. Mais évidemment, une des différences, c'est que l'extrême droite, elle, veut remplacer l'élite politique actuelle par sa propre élite. Et même si elle prétend faire ça au nom de l'intérêt du peuple, ou plutôt, en fait, puisqu'il y a un discours xénophobe au nom de la nation, disons, le courant auquel moi je m'identifie rêve plutôt de démocratie directe, donc on espère pouvoir se passer de cette élite politique et on espère que le peuple le plus possible puisse s'autogérer.
Alors entrons dans votre pensée, Francis Dupuy-Déry, entrons dans votre ouvrage passionnant par ailleurs parce qu'il permet de changer de perspective sur des moments clés de l'histoire française et américaine. Pour commencer, je vous cite, vous écrivez « démocratie » entre guillemets. « Démocratie » est devenu un mot à ce point populaire que les universitaires spécialistes de la démocratie se laissent duper et croient que le régime d'Athènes et celui de Washington ou de Paris relèvent du même esprit et des mêmes principes parce qu'ils ont le même nom, point d'exclamation et fin de citation. Comment se fait-il que tant de chercheurs, tant de politistes se laissent duper ?
Oui, ben moi aussi, en fait, moi j'ai souvent enseigné à mes classes que la démocratie avait été inventée à Athènes, puis elle était tombée dans une sorte de dormance pendant quelques milliers d'années, puis elle était réapparue sous une autre forme, mais avec le même mot. Et puis c'est en faisant donc ma recherche, qui m'a été inspirée, qui était inspirée en fait par des travaux d'historiens et historiennes comme Blandine Laniel et d'autres, là, qui avaient travaillé sur l'histoire du mot démocratie aux États-Unis, puis d'autres sur l'histoire du mot démocratie en France. Moi, j'ai voulu faire une comparaison des deux pour voir s'il y avait un phénomène similaire ou des processus similaires. Et donc, l'énigme, c'était de voir que les pères, je dis les pères parce que c'était des hommes, fondateurs de ce qu'on appelle les démocraties modernes, quand on retourne dans leurs textes, donc leurs lettres personnelles, leurs journaux, leurs déclarations, leurs manifestes, leurs discours, n'utilisaient presque pas le mot démocratie. Et quand ils l'utilisaient, c'était toujours péjoratif. C'était un peu le synonyme de l'anarchie, où les démocrates étaient des anarchistes, on pourrait dire ça comme ça. C'était des pauvres qui voulaient instaurer la tyrannie des pauvres, c'était le chaos, c'était la violence. Je pense que John Adams, le deuxième président des États-Unis, avait dit « la démocratie, c'est un régime sanglant, cruel et tyrannique », si je paraphrase là. Et donc, mon énigme, c'était « mais comment est-ce qu'on a des pères fondateurs qui sont antidémocrates, qui disent explicitement qu'ils ne veulent pas fonder de démocratie, parce que la démocratie, c'est dangereux, la démocratie, c'est le mal ?» Et que nous nous retrouvons comme 200 ans plus tard, 300 ans plus tard, avec tout le monde qui considère que nous sommes dans des régimes démocratiques.
C'est ce qu'il y a de plus passionnant dans votre livre, c'est de découvrir qu'effectivement, les révolutionnaires aux États-Unis, en France, n'étaient pas si démocrates que cela. C'est ce que rappelle notamment Pierre Rosanvallon. Hein. Il remarque que dans le contexte révolutionnaire français, le mot « démocratie » n'est pas prononcé une seule fois dans les débats de 1789 à 1791 sur le droit de suffrage. Je voudrais vous faire entendre un texte signé de l'abbé Sieyès qui explique clairement que la France ne doit pas être une démocratie.
La très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instruction, ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Leur avis est donc de se nommer des représentants. Et puisque c'est l'avis du grand nombre, les hommes éclairés doivent s'y soumettre comme les autres. Quand une société est formée, on sait que l'avis de la pluralité fait loi pour tous. Ce raisonnement, qui est bon pour les plus petites municipalités, devient irrésistible quand on songe qu'il s'agit ici des lois qui doivent gouverner 26 millions d'hommes. Car je soutiens toujours que la France n'est point, ne peut pas être une démocratie. Elle ne doit pas devenir non plus un État fédéral composé d'une multitude de républiques, unies par un lien politique quelconque. La France est et doit être un seul tout, soumis dans toutes ses parties à une législation et à une administration commune. Puisqu'il est évident que 5 à 6 millions de citoyens actifs, répartis sur 25 000 lieux carrés, ne peuvent point s'assembler, il est certain qu'ils ne peuvent aspirer qu'à une législature par représentation.
Il est troublant quand même d'entendre le texte de Sieyès, Sieyès qui signe en 1789 la brochure « Qu'est-ce que le tiers-État ?» n'est pas un démocrate pur et qu'il affirme que la France ne doit pas être une démocratie. Comment est-ce que vous l'expliquez, Francis Dupuy-Déry ?
Qui était un des pamphlets les plus influents là de cette période. C'était un révolutionnaire vraiment très très important. Et ce qu'il dit, en fait, on retrouve des citations à peu près similaires par dizaines à la même époque en France et aux États-Unis. Donc il y a plusieurs explications, mais en tout cas une des explications certainement, et on l'entend bien dans cet extrait, c'est que l'élite des mouvements révolutionnaires aux États-Unis et en France avait été formée, en fait éduquée aux études classiques gréco-romaines. La plupart en fait lisaient le latin ou le grec et ils avaient en fait une compréhension très négative ou péjorative de Athènes. Donc, c'était la démocratie, c'était Athènes, la démocratie qu'on appelle directe aujourd'hui. Et il préférait à ce régime le régime romain de la République. Et d'ailleurs, dans le cas des États-Unis, c'est extrêmement clair, puisque aux États-Unis, la République américaine a pris comme symbole l'aigle romain. L'aigle qu'on voit sur les dollars américains, si je ne me trompe pas, le Sénat américain, c'est le Sénat, ça vient de, c'est emprunté de Rome, et les maximes en latin pendant la Révolution française, plusieurs donnaient des noms latins romains à leurs enfants, par exemple, et donc en fait c'est vraiment une des explications, c'est leur conception de l'histoire et à quel héritage ils s'identifient. Et puis évidemment une autre explication qui est plus, disons, pragmatique ou cynique, c'est que les leaders, les chefs de ces mouvements révolutionnaires, qui n'étaient pas tous d'accord, vous connaissez la Révolution française, c'est plusieurs années de conflits extrêmement violents et de factions concurrentes, mais ce sont des leaders qui viennent des classes plutôt aisées, sont souvent des juristes de familles avec un fort capital social, fort capital culturel, et qui ont déjà des postes à ce qu'on va appeler l'Assemblée nationale, les États généraux, l'Assemblée nationale, et dans les colonies britanniques qui vont devenir les États-Unis, il y a des assemblées coloniales.
Donc ils ont des intérêts à défendre, ces gens.
Ben, en fait, ce sont déjà des parlementaires d'une certaine manière, et en fait, finalement, au fil du déroulement des conflits, ils vont vouloir tirer dans leur institution, recueillir entre leurs mains tous les pouvoirs politiques, le pouvoir du roi. En France, on va même le décapiter. Aux États-Unis, on va déclarer l'indépendance de l'Angleterre, donc de la couronne britannique. Et ces parlementaires, ils veulent le pouvoir pour eux. Ils veulent pas que ce soit le peuple qui ait le pouvoir. Donc, on déclare le peuple souverain. Mais ça, c'est facile de déclarer le peuple souverain. Il a même pas de pouvoir.
Bon, mais tout de même, on ne peut pas nier que dans le courant de la Révolution française, il y a eu des avancées démocratiques notables. Hein. Si je prends évidemment l'exemple de la Convention nationale en 1792, élue pour la première fois au suffrage universel masculin, qui est destinée à élaborer, à forger une nouvelle constitution, c'est bien une première dans l'histoire de la nation française, c'est bien une avancée démocratique majeure.
Disons que j'appellerais ça plutôt une avancée républicaine. Si je peux me permettre d'être pointillé sur les mots, parce que là encore, ce sont des délégués, ce sont des représentants, et on vote pour des représentants qui vont gouverner à la place et au nom du peuple ou de la nation, si on avait vraiment un régime démocratique. Et c'est ce que Sieyès dit, d'ailleurs, si on était vraiment en démocratie, on aurait un ensemble d'assemblées délibérantes populaires. Et en France, un peu aux États-Unis, mais un peu dans la guerre d'indépendance qui mène à la création des États-Unis, mais en France, très certainement, il y avait un courant réellement démocratique, qui était d'ailleurs dénigré, qui était les sections. Donc les sections, c'était des assemblées citoyennes dans les quartiers. Il y en avait à Paris, il y en avait à Marseille, il y en avait dans d'autres villes. Et ces sections, des fois, appuyaient des leaders, des fois étaient utilisées par des factions. Et quand ça ne faisait plus leur affaire, en fait, elles étaient réprimées dans le sang. Et leurs leaders, comme Jack Roux et d'autres, ont été évidemment guillotinés. Vous me direz, c'est pas les seuls à avoir été guillotinés. C'était à la mode à l'époque. Mais clairement, ils étaient beaucoup trop revendicatifs. Et aussi, ils concevaient la démocratie pas seulement en termes de participation populaire, mais, c'était très dangereux, d'égalité économique.
Alors, revenons à ce que vous décortiquez minutieusement dans votre ouvrage, et notamment le fonctionnement de la démocratie athénienne. Est-ce que pour vous, Athènes, sa démocratie, son fonctionnement représente la démocratie à l'état pur, ou en tout cas ce qui s'en approche le plus?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que Athènes, c'est un peu aujourd'hui la tarte à la crème de la science politique, de l'histoire de la démocratie et de la philosophie.
C'est la référence constante.
Absolument, exactement. C'est nouveau. Hein. D'ailleurs, ça date du milieu du 19e siècle. En Occident, on prenait beaucoup plus comme modèle Rome, comme je dis, mais même Sparte. Alors que maintenant, aujourd'hui, Sparte, c'est les méchants. Et donc, il y a eu comme une sorte de basculement. Et oui, mais évidemment, tout le monde le sait, j'imagine, les femmes étaient exclues, les esclaves étaient exclus, les étrangers étaient exclus, les enfants étaient exclus. Mais en termes de processus de prise de décision, c'était les personnes qui étaient citoyennes qui prenaient des décisions et qui les actaient. Je donne souvent l'exemple de la guerre. Les Athéniens, quand ils votaient la guerre, c'était eux qui allaient faire la guerre. Si Macron vote la guerre, il va pas faire la guerre. Si Trump vote la guerre, il va pas faire la guerre. Mais j'aime rappeler, parce que c'est important, que ce mythe d'Athènes nous aveugle, disons, nous éblouit tellement fort qu'on ne voit pas toute la multitude d'expériences démocratiques souvent plus intéressantes dans d'autres peuples, dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, en Afrique, en Amérique du Nord, où il y avait les nations autochtones, elles sont encore là d'ailleurs, et dans d'autres régions du monde, et au Moyen-Âge aussi, où il y avait des assemblées d'habitants, par exemple, où les guildes de métiers fonctionnaient par assemblée générale.
Pourquoi alors décortiquez-vous s'il y a tant d'autres exemples passionnants, féconds du point de vue de la connaissance? Pourquoi vous concentrez-vous tout de même sur Athènes? Vous décortiquez par exemple le fonctionnement des assemblées. Je vous cite, l'assemblée s'ouvrait par le sacrifice d'un cochon, par une prière et par une malédiction énoncée à titre préventif contre les orateurs qui tenteraient de tromper le peuple. Puis un héros demandait « Qui veut prendre la parole ?» Fin de citation. C'est bien, j'allais dire, une manière de nous faire entrer dans ces assemblées et dans le fonctionnement de la démocratie athénienne.
Je voulais montrer, entre autres, que c'était quelque chose qui était... c'était une pratique qui était liée à des rituels. C'était quelque chose qui était comme ancré dans des rituels, dans des pratiques, dans des processus. On faisait pas juste comme ça discuter de manière aléatoire. Mais, si je peux me permettre une petite publicité, désolé, dans un autre livre qui s'appelle « La peur du peuple », qui est un peu la suite, là, c'est pas une vraie suite, c'est pas une série télévisée, mais dans La peur du peuple, c'est là où j'ouvre en fait cette réflexion-là sur les autres modèles de démocratie, comme par exemple, en Amérique du Nord, les Wendat, les Mohawks, les Ojibwe, les Atikameks avaient, et c'est les jésuites, c'est les missionnaires, c'est les colonisateurs français qui l'ont constaté dans leur récit, ils disent, mais ces peuples sont toujours en train de s'assembler, de délibérer, mais là, contrairement à Athènes, on n'a pas de récit écrit de ces peuples-là directement, c'est les missionnaires qui les voient, mais sauf qu'ils mentionnent, contrairement à Athènes, ils disent, mais même les femmes sont dans l'Assemblée délibérante, et des fois les enfants ou les jeunes sont dans l'Assemblée délibérante, donc en fait c'est des modèles qu'on pourrait dire aujourd'hui plus intéressants qu'Athènes.
Comment les révolutionnaires français, Francis Dupuy-Déry, abordaient-ils cette démocratie athénienne? Vous nous avez parlé de Rome, de la fascination que la démocratie, en tout cas le fonctionnement politique romain, avait sur ces révolutionnaires français et américains. Mais s'agissant de la démocratie athénienne, quel lien tissait-il du point de vue intellectuel?
Ben en fait, eux, comme ils avaient été formés, comme j'ai dit, aux études classiques, ils tiraient leur enseignement de, entre autres, Platon, d'Aristote et de Thucydide, et ces grands penseurs étaient des antidémocrates. Donc, c'est souvent quelque chose qui est ignoré. On dit, par exemple, que Socrate, qu'on présente souvent comme le premier philosophe, ce qui est un peu absurde, mais comme le premier philosophe dont Platon rapporte la pensée, on dit que Socrate, par exemple, ne se présentait pas à l'Assemblée citoyenne parce qu'en fait, il disait « L'Assemblée citoyenne, c'est un désastre. Il y a des... » Et c'est en tout respect pour les cordonniers. Il y a des cordonniers, il y a des chapeliers, il y a des ferblantiers, il y a des menuisiers. Tous ces gens-là discutent du bien commun, du bien de la cité, mais en fait, ils n'y connaissent rien. Et c'était donc des perspectives qui étaient très méprisantes envers les gens ordinaires. Évidemment, c'est une expression qui elle-même est péjorative. Et une vision évidemment élitiste. Et ceux qu'on va appeler les patriotes, donc les leaders des mouvements indépendantistes dans les colonies britanniques et dans les mouvements révolutionnaires en France, les grands leaders se pensaient évidemment supérieurs au peuple, supérieurs à la masse, je vais dire ça comme ça, et pensaient qu'eux étaient capables de comprendre le bien commun, mais que Jacques, Georges et Robert n'avaient pas cette capacité-là. Et c'était une des justifications pourquoi il ne fallait pas fonder une démocratie.
Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que les critiques de la démocratie athénienne, notamment le mépris à l'égard des classes sociales modestes, le mépris à l'égard des fripons, ce mépris-là, c'est cela d'abord et avant tout qui a traversé l'histoire et que les révolutionnaires les plus aguerris en 1789 en France, aux États-Unis, ont retenu principalement?
Oui, mais c'est que ça convergeait aussi avec leurs intérêts concrets, c'est-à-dire leur intérêt politique d'être ceux qui allaient pouvoir gouverner la France ou ce nouveau pays qui allait être les États-Unis. Et ça convergeait aussi avec leurs intérêts économiques, ou si c'était pas les leurs, ceux de leurs frères ou de leurs cousins ou de leur famille ou de leurs amis. Et c'est pas pour rien qu'on a inscrit très rapidement dans les constitutions de la France et des États-Unis la propriété privée comme un droit sacré.
Je vous cite à nouveau Francis Dupuy-Déry. Vous écrivez « Cette quête du pouvoir par les membres de l'élite et leur agoraphobie, c'est-à-dire leur antidémocratisme politique très clairement exprimé, ne sont pas nécessairement à mettre sur le compte d'un élitisme égoïste. Les chefs patriotes pouvaient désirer accroître leur pouvoir afin de défendre et promouvoir des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la justice, la solidarité. » Fin de citation. Donc l'idée, c'était pas seulement de défendre leurs intérêts propres, mais aussi par le truchement de leur position, défendre des valeurs qui les dépassaient ?
Oui, évidemment, parce qu'en fait, ils étaient les fils des Lumières. Les fils, c'était des personnes qui étaient éduquées. Ils avaient lu des philosophes. Ils étaient lettrés. Et ils se prétendaient, en fait, défenseurs de grands idéaux. C'est pas pour rien qu'évidemment, en France, sur les parvis sur les murs des écoles, vous avez liberté, égalité, fraternité. C'était à ce nom-là qu'ils mobilisaient aussi la population. Parce que là, dans ce que je dis, il faut pas oublier qu'il y a une partie de la population, évidemment, qui était enthousiaste par ce projet, qui trouvait, par exemple, que la monarchie française était un régime dépassé, qui était un régime où on avait vécu dans la misère, et ils espéraient que cette réforme, en fait, qu'on a appelée une révolution, que cette transformation organisationnelle et constitutionnelle allait apporter plus de bonheur au peuple ou plus de liberté au peuple.
Cette discussion que nous avons présentement me rappelle une discussion que nous avons eue avec un historien américain, Robert Darnton, que nous on a reçu dans Questions du soir, et je renvoie les auditeurs à cet échange. On l'avait intitulé « Qu'apprendre des contextes pré-révolutionnaires ». Mais j'en reviens à votre ouvrage, Francis Dupuis-Derry. Pourquoi rapprochez-vous la Révolution française et la Révolution américaine ? Qu'y a-t-il de commun, et notamment de commun dans cette méfiance presque structurelle, structurante à l'égard de la démocratie directe ?
Oui, en fait, deux, trois raisons pourquoi je les compare. Probablement, premièrement, parce que dans l'histoire, et encore aujourd'hui, c'est considéré généralement comme des modèles de démocratie, les États-Unis et la France. Bon, le Canada aussi, mais faut pas être trop chauvin. Premièrement. Et deuxièmement, parce que dans l'histoire du 18e, 19e siècle, ces pays s'influencent, ils se regardent les uns les autres, leur histoire est en partie imbriquée. Benjamin Franklin, par exemple, vient ici. Évidemment, le général Lafayette va combattre avec les indépendantistes aux États-Unis. Donc, on apprend l'un de l'autre.
Certains historiens parlent même de révolution atlantique au pluriel.
Exactement, exactement. Puis il y en a d'autres, en fait, dans les Pays-Bas et tout, qui sont moins connus. Mais aussi, et là, peut-être c'est un peu je vends le punch de la fin de mon livre, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'en fait, je voulais comparer pour voir si en fait c'était la même explication qui nous permettait de comprendre pourquoi finalement le mot démocratie va devenir positif. Et en fait, dans les deux cas, ça commence 10 ans plus tôt aux États-Unis, mais c'est la même chose en France. On est dans les années 1830 aux États-Unis. Il y a un candidat à la présidence qui s'appelle Andrew Jackson, qui perd une première campagne électorale. Il s'oppose, il est en compétition avec d'autres candidats, et tout le monde se présente comme républicain et défenseur de la République. Et Andrew Jackson revient à la charge à l'élection présidentielle suivante, et avec ses conseillers électoraux, il va en fait changer son vocabulaire, son discours politique. On appellerait ça aujourd'hui du marketing politique. Et il est le premier à dire « Je me bats pour la démocratie, je suis un démocrate ». Je suis contre l'aristocratie de Washington, l'aristocratie politicienne de Washington, et je suis contre l'aristocratie financière des ports comme Boston, Philadelphie, Chicago. Et il l'emporte. Et en quelques années, toute la sphère politique américaine, et c'est pas moi qui le dis, c'est les textes même de l'époque, les journaux, les analystes de l'époque disent « Ah, mais maintenant tout le monde se réclame de la démocratie, et on ne peut plus gagner d'élection sans se dire démocrate et sans dire qu'on se bat pour la démocratie ». Mais ils n'ont rien changé dans la structure du système, là, l'organisation, qui prend les décisions, le processus de prise de décision, la place des gens ordinaires dans
la
politique.
C'est juste une évolution sémantique.
Le mot a été changé et il a tellement séduit, il a eu tellement une force de frappe en termes de, pour marquer les esprits et gagner des votes, qu'il a été repris par tout le monde. Et en France, c'est 1848, donc la révolution républicaine de 1848, parce qu'en France, vous avez une histoire compliquée, hein, c'est révolution, restauration, révolution, restauration, révolution, restauration, Pétain, restauration, révolution. Bon.
Surtout sous le 19e siècle, hein, exactement, qui a fait une variation importante.
Mais exactement. Mais en 1848, donc révolution républicaine très importante, et là, un révolutionnaire qui est comme d'habitude en prison, Auguste Blanqui, note, en écoutant les discours électoraux, il dit « Le mot démocratie est devenu caoutchouc, c'est-à-dire élastique. Mm-hmm. » Il dit « Tout le monde se réclame de la démocratie. » Et il dit « Aujourd'hui, en France, on a même des aujourd'hui, c'est-à-dire en 1848, des monarchistes démocratiques ou démocrates. » Et donc, c'est exactement le même phénomène. C'était pour convaincre l'électorat que on allait œuvrer pour son bien. Et donc, c'est vraiment une stratégie de marketing politique sans qu'il y ait vraiment de modification, sans qu'on ouvre à une plus grande participation populaire. À part, évidemment, dans le cas de 1848, il y a eu la possibilité de voter, un élargissement du droit de vote pour les hommes. Les femmes l'ont encore demandé et on leur a encore refusé. Mais c'était toujours limité au vote, pas au pouvoir.
En quelques mots, comment est-ce que vous expliquez que la démocratie est même au-delà d'un objet consensuel, un objet culturel désormais à proprement parler ?
Absolument. Maintenant, en fait, le mot démocratie, en fait, il est encore plus caoutchouc ou plus élastique au milieu du
Il est devenu totalement attrape-tout.
Oui, puis en fait, comme vous avez remarqué, dans notre discussion, en fait, on a peut-être utilisé l'expression une ou deux reprises de démocratie directe, mais au 18e, 19e siècle, quand on parle de démocratie, il n'y a pas de qualificatif. La démocratie, au départ, c'est le peuple gouverne, comme à Athènes, et puis finalement, ça devient, c'est le système électoral. Et à partir de là, on va commencer à mettre des qualificatifs. Donc, on aura démocratie représentative, libérale, participative, délibérative. On a même la démocratie du marché, la démocratie de la consommation, la cyberdémocratie. Donc, en fait, maintenant, tout est démocratique.
Merci beaucoup, Francis Dupuy-Déry. Je recommande la lecture de votre ouvrage « Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France » qui vient de reparaître en France. Et par ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui ont fait penser cette émission. Bertie Bourdon, Bruno Barda, Rodi Eken à la réalisation. C'était ce soir, et comme chaque soir, Léa Racine.